Manuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Regardons à l'esprit qu'une civilisation est une reconquête de chaque jour sur le barbare qui en chaque civilisé ou qui se croit tel ne dort que d'un œil.
Aujourd'hui, comme tous les jours de cette semaine, les nouveaux chemins vous emmènent sur scène, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devant un public de près de 1000 personnes qui s'est réuni samedi 30 janvier dernier pour écouter 5 débats réunissant des philosophes venus réfléchir ensemble aux enjeux philosophiques de l'année écoulée.
Nous sommes en 2016.
Ces débats ont été préparés grâce à l'équipe des Nouveaux Chemins, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy et Marianne Chassor, orchestrés par l'équipe de communication de France Culture, réalisés par Midia Portis-Guérin avec à la prise de son Christophe Michou, Christophe Goudin, Benjamin Perru et Mathieu Leroy. Ces débats ont été organisés en partenariat avec Philosophie Magazine. Et cette semaine, vous avez pu entendre la diffusion dans leur intégralité de ces émissions débats que vous avez pu découvrir chaque jour à l'heure habituelle des Nouveaux Chemins ainsi qu'en podcast, bien évidemment. Lundi, vous avez pu entendre Magali Besson, Frédéric Worms et Alain Renaud réfléchir au rôle du philosophe dans les situations d'urgence, entre nécessité du temps long pour la réflexion et contrainte de l'événement. Mardi, Cynthia Fleury, Pierre Rosanvallon et Olivier Dard étaient venus réfléchir aux nouvelles problématiques liées à la représentation entre abstention et montée de l'extrême droite aux dernières élections, à partir d'une question, la démocratie nous représente-t-elle encore? Mercredi, les philosophes Bruno Bernardi, Roselyne Létron et Michael Fessel ont débattu autour d'une question qui avait fait couler beaucoup d'encre l'an dernier, la sécurité est-elle la condition de la liberté? Et hier jeudi, c'était Sophie Gérard de la Tour, Alain Finkielkraut et Thierry Leger qui ont interrogé les notions d'identité et de nationalité à partir d'une autre question. Qu'est-ce qu'être français? Mais aujourd'hui, pour les chemins du vendredi, Martin Legros de Philosophie Magazine est venu me rejoindre sur la scène du grand amphithéâtre de la Sorbonne où nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Régis Debray pour un entretien qui prit une forme, disons, inattendue. Écoutez plutôt. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, bonjour, ça s'adresse aux auditeurs qui écouteront cet entretien vendredi prochain. Bonsoir à vous qui êtes là en ce moment même dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, qui êtes restés sans doute toute la journée depuis ce matin, la journée fut longue, peut-être ennuyeuse, en tout cas vous êtes encore là, ce qui est plutôt bon signe. Et je suis vraiment ravie de terminer cette journée en présence de Régis Debray, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous accompagner pour cette dernière heure, et de Martin Legros, de Philosophie Magazine. Avec Martin, quand on essayait de préparer ce qui devait être un dernier entretien, on a tout de suite pensé à Régis Debray, on était ravis qu'il accepte. Et en revanche, on s'est rapidement rendu compte qu'un entretien allait sans doute être difficile, parce que Régis Debray fait partie de ces intellectuels qui a pour caractéristique, entre autres, de ne pas toujours respecter les consignes. Et ça, Martin Legros, ça vous a inspiré.
Oui, Adèle. Les philosophes, en général, en réalité, vous le savez bien, ne respectent pas les consignes. Il était prévu qu'on fasse un entretien. Ce ne sera pas le cas, ce sera mieux, j'en suis convaincu. On aimerait bien, vous et moi, qui traitons souvent avec les philosophes, tous les jours même, qu'ils nous disent de temps en temps, comme l'allumeur de réverbère dans Le Petit Prince, à qui le petit prince demande pourquoi il continue, vous savez bien, pourquoi est-ce qu'il continue d'allumer des réverbères toutes les minutes et non pas seulement matin et soir, et qui répond parce que la consigne, c'est la consigne. On aimerait bien que les philosophes nous répondent de temps en temps cela, mais non, les philosophes ne sont pas nécessairement des allumeurs de réverbères. S'ils nous éclairent, eux, c'est sur cette planète en accélération, c'est parce qu'ils ne respectent pas les consignes, qu'ils ne se plient pas aux mots d'ordre et aux injonctions, mais qu'ils les bousculent et les interrogent. Et c'est tout à fait particulièrement vrai de Régis Debray, que je remercie vivement d'avoir accepté d'intervenir pour clôturer cette journée, alors même, et je voudrais insister deux minutes là-dessus avant de lui laisser la parole, que le type de cet exercice de la conférence lui est plutôt étranger. Permettez-moi, cher Régis, en guise d'introduction et de reconnaissance, je sais que vous avez pris sur vous, et je crois même savoir que vous êtes un zona, donc vous êtes un peu sous médicament en plus, pour vous remercier à double titre. Donc, permettez-moi, Régis Debray, de briser le sceau de la confidentialité et de dévoiler ici un mail personnel, à mon sens drôlatique, dans lequel vous me faisiez part du peu de satisfaction éventuelle que vous aviez pour ce type d'intervention. Je n'aime pas du tout les conférences. Genre, à mes yeux, artificiel et regrettablement décoratif. Je m'endors aussi bien en les faisant, encore le cas, qu'en les écoutant. Rien ne vaut le style. Prenez également en compte que je n'ai aucun message à faire passer, aucune doctrine à propager, que les intellectuels français m'ennuient ou me font rire. Bref, un mauvais client. Fermez la citation. Un mauvais client, vous charriez tout de même un peu, cher Régis. Compagnon de route de chez Lucci en Bolivie à 20 ans, agrégé de philo à 25, conseiller de Mitterrand à 40, fondateur à 50 d'une nouvelle discipline, cela n'arrive pas tous les jours, la médiologie, qui, bien avant et 20 ans avant que la révolution numérique n'arrive, nous essayait de saisir les liens entre les techniques de communication, les croyances et les modes d'organisation. Vous êtes aussi l'auteur d'une monumentale recherche sur l'image, vie et mort de l'image en Occident, président de l'Institut européen des sciences de religion. Enfin et surtout, et je crois que le nombre de personnes présentes ce soir l'atteste, une boussole intellectuelle pour une société française qui tend à perdre ses fondamentaux de la laïcité à la fraternité. Tout cela ne fait pas, me semble-t-il, un mauvais client. Bon ou mauvais, c'est en tout cas à vous que nous avons immédiatement pensé avec Adèle, France Culture et Philosophie Magazine, tant il nous apparaissait que pour faire face aux événements tragiques de l'année 2015, nous avions à interroger et réveiller toutes les notions qui ont été au cœur de votre réflexion, depuis la laïcité, à laquelle vous venez d'ailleurs encore de consacrer un petit guide aussi pratique que perspicace, je le signale, la laïcité au quotidien, écrit avec un préfet, Didier Lechy, mais aussi la fraternité, je l'ai dit, cette grande oubliée de la devise républicaine dont vous avez ranimé le sens et l'exigence dans le moment fraternité, alors que plus personne ou tout le monde considérait que c'était quelque chose d'assez désuet. Mais encore le religieux et son retour, dont vous avez annoncé le retour, scruté l'importance dans des critiques de la raison politique, et pour lequel vous préconisez depuis longtemps une riposte de connaissance, la seule riposte valide et profonde, à travers cet enseignement du fait religieux pour lequel vous militez dans l'école. Visionnaire adepte du style, vous le dites vous-même, vous faites parfois plus confiance à la langue qu'à la raison résonante, vous n'êtes certainement pas un mauvais client, je dirais moi que vous êtes plutôt un esprit contraire. Et je dois dire d'ailleurs que longtemps, j'étais un peu énervé, avant de vous lire vraiment, j'étais un peu énervé contre le personnage auquel vous jouiez souvent, républicain scrogneux, fâché contre son temps, opposant systématiquement la République à la démocratie ou la France à l'Amérique, se désolant que le citoyen soit devenu un consommateur, le militant une victime, le patriote un droit de l'homiste. Vous l'admettez d'ailleurs volontiers, vous vous définissez, je cite, comme un esprit contrariant, toujours enclin à pencher son balancier du côté opposé aux satires, non par provocation, dites-vous, mais pour garder l'équilibre. Acteur de la révolution quand les autres théorisent le dogme révolutionnaire, conseiller du prince à l'heure de la dissidence antitotalitaire, républicain soucieux de transcendance quand les autres ne jurent plus que par l'égalité démocratique, attentif aux frontières avant tout le monde, l'antidote au mur, dites-vous, quand les autres croyaient qu'on pouvait s'en passer. Aujourd'hui encore, vous êtes contraire et vous allez être contraire. Nous vous demandions de vous pencher sur les événements, les grands événements de l'année 2015. C'est ce qu'il va faire, rassurez-vous, mais c'est par un long détour que vous avez proposé de le faire qui m'a étonné au début et puis j'ai compris la subtilité de la proposition qui est la vôtre aujourd'hui, cette évocation d'un autre philosophe, Benjamin. Pour cette journée où nous sommes tous invités à nous retourner sur les événements de 2015, vous avez décidé donc d'évoquer Walter Benjamin, auquel vous venez d'ailleurs de consacrer un opéra étonnant. C'est rare, les philosophes qui écrivent des opéras. Benjamin, Dernière nuit, qui sera joué à l'Opéra de Lyon au mois de mars. Benjamin, qui, dans ses thèses sur le concept d'histoire, que vous allez aborder dans un instant, nous invitait à penser l'histoire comme une série de catastrophes venues du passé, vers lesquelles nous étions retournés et dont le souffle nous emportait vers le futur, comme si nous entrions vers l'histoire, dans l'histoire en marche arrière. C'est un peu notre situation aujourd'hui, regardez 2015, emporté vers 2016 par le souffle des événements. Je vous cède donc la parole, cher Régis, en vous remerciant de ne jamais respecter la consigne, mais de continuer à allumer nos réverbères.
Merci mes amis, tout l'honneur est pour moi. Excusez le trépied, je suis contrarié du côté droit, je penche du côté gauche, et j'essaierai de ne pas être trop contrariant. Ne croyez pas que je vais botter en touche en vous parlant, ou plutôt en réfléchissant sur la place qu'on peut faire aujourd'hui à un météore franco-allemand, Walter Benjamin. Je vous rappelle les dates, 1892-1940. Un météore qui n'aura de son vivant trouvé nulle place. Ni à Berlin qui l'a chassé, ni à Paris qui l'a snobé, ni à Moscou qui l'a déçu, ni à Jérusalem où l'attendit en vain son grand ami Gershom Scholem, l'exégète mystique de la Kabbale, ni à New York, qu'il a manqué pouvoir rejoindre, comme ses amis de l'école de Francfort plus chanceux l'ont fait. Alors vous savez tous que ce double national sans nationalité, déchu de sa nationalité, que ce multi-identitaire sans papier d'identité s'est suicidé à Portbout. Le 26 septembre 1940, Portbout, c'est juste en deçà des Pyrénées, du côté espagnol. Il s'est suicidé pour ne pas se voir reconduit de l'autre côté de la frontière par les autorités françaises qu'il aurait remis entre les mains de la Gestapo en sa triple qualité de juif, de communiste et d'apatride. Oui, quelle place peut-on faire à ce passant considérable qu'on ne doit pas laisser passer ? Je crois que c'est la place d'un lanceur d'alerte, je dirais d'un Edward Snowden métaphysique. Et ce n'est pas le précurseur de la psychologie de l'heure, ce n'est pas le critique de la culture que je voudrais évoquer aujourd'hui, ce soir devant vous. C'est le prévisionniste méconnu, l'auteur énigmatique des 19 thèses sur le concept d'histoire. C'est le titre de ce texte qui fut pour ainsi dire son testament, et qu'Anna Arendt a pu, par miracle, ramener avec elle en Amérique. Au plus fort de la détresse européenne, au moment du pacte germano-soviétique, au moment où, au déshonneur, s'ajoutait la guerre, Benjamin a voulu s'expliquer l'étrange défaite. Et comment ? Eh bien, en matérialiste, instruit à l'école de Marx et fidèle à la tradition des imprimés. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette bouteille à la mer ? Des propos absolument incongrus, des propos dérangeants. Aussi dérangeants, je dirais, que les manuscrits alchimiques de Newton. On y lit quelque chose comme ça. Le matérialisme historique, pour continuer d'affronter victorieusement ses adversaires, doit, je cite, « s'assurer des services de la théologie ». On y lit que les sociodémocrates, ces grands ennemis de la nostalgie et du passéisme, doit s'enlever de la tête l'idée rassurante d'un temps mécanique et prédestiné qui leur serait toujours favorable, où le progrès joue gagnant à tous les coups, quand seuls, je le cite encore, d'anciens éclats du temps messianique peuvent remettre du futur dans le présent. Et alors ce critique d'art, qu'on peut bien appeler un poète conceptuel, toujours aux frontières entre la littérature et la philosophie, il nous invite, je le cite, a quitté le bordel de l'historicisme avec sa putain préférée nommée « Il était une fois ».« Il était une fois » la putain préférée. Pourquoi ? Parce que, nous dit-il, le passé n'est jamais clos ni achevé. Il est inachevable. Il ne cesse de naître et de renaître. C'est un passé à venir, si vous voulez, un pistolet à plusieurs coups. Et je vais encore le citer pour la dernière fois, à l'heure où gisent à terre les politiciens en qui les adversaires du fascisme avaient mis leur espoir, à l'heure où ils aggravent leur défaite en trahissant leur propre cause, nous voudrions libérer l'enfant du siècle des filets dans lesquels ils l'ont entortillé. Le point de départ, dit-il, en est la foi aveugle de ces politiciens dans le progrès, leur confiance dans le soutien massif de la base et finalement leur adaptation servile à un appareil politique incontrôlable. Fin de citation. Cela n'est pas écrit en 2016, mais en 1940. Et à l'heure où ce qu'on continue d'appeler avec une noble persévérance les forces de gauche s'effritent ou s'effondrent sous nos yeux, on appelait ça la défense élastique en 1940, on se demande si notre génération déconfite n'est pas toujours entortillée dans ce filet de préjugés qui embrumait les cervelles d'avant-guerre au point de les rendre aveugles à leur propre destin. Alors notre paresse a des excuses parce qu'il en coûte de se défaire d'une vision du temps positiviste, à sens unique, un temps bien linéaire, où le passé s'efface au fur et à mesure. C'est une vision, ou c'est un refrain, ou c'est une berceuse, auquel on s'accroche nous aussi. C'est le Kampfplatz, le champ de bataille, des esprits simples ou des simples esprits, la boîte à rangement des gazettes dans le vent, où il y a le ou bien progressiste ou bien réac, ou bien ouvert ou bien fermé, ou bien vif et frais, ou bien moisi et scrogneugneux. Vous avez employé le mot. Je ne vous en veux pas. Chacun son étiquette. C'est en fait une commode art moderne, bien commode, sans tiroir où on peut nicher un matérialiste théologien. Un vengeur des opprimés qui exalte, dit-il, le saut du tigre dans le passé. On nous cite toujours Peggy, c'est à la mode. Mais on a beaucoup d'amis européens qui répondent à cette définition. Qu'est-ce qu'on va en faire? Dans quel cas on va ranger, par exemple, l'inventeur de l'intersectionnisme, le portugais Pessoa, le patriote cosmopolite, polyglotte et indigéniste? Où va-t-on mettre un socialiste anglais comme Orwell, le combattant internationaliste de la guerre d'Espagne, pour qui entendre le « God save the king » sans se mettre au garde à vous relevait du sacrilège? Que va-t-on faire d'un traditionaliste subversif comme Pasolini, le défenseur des lucioles en perdition et qui en appelait aux forces révolutionnaires du passé? Et que va-t-on faire d'un homme paradoxe comme Benjamin, qui regrettait, ouvrez les guillemets, écoutez bien, qui regrettait que la classe ouvrière ait désappris à la fois la haine et l'esprit de sacrifice, car l'une et l'autre se nourrissent de l'image des ancêtres asservis et non de l'idéal d'une descendance affranchie. Des ancêtres avant des idéaux, avant la descendance. Voilà, il y a comme ça des inclassables, des révolutionnaires qui se sentent en dette avec le révolu, des mondialistes qui honorent leur petit coin de terre. Bref, des imprudents qui cumulent les inconvénients et font tâche dans un cadre binaire et bicolore. Ces intempestifs n'ont eu ni de parti ni de maison d'accueil, et on ne peut s'empêcher de les citer à l'ordre du jour, ces enquiquinaires qui passèrent à chaque fois pour des traîtres à leur propre camp. Une arrière-garde aux avant-postes, un réactionnaire de progrès, ça gêne nos entournures et ça bouleverse nos grilles de lecture. Oui, il faut réfléchir au pied de nez lancé par les dernières décennies aux annonces canoniques de la modernité, vous savez, celles qui nous fixaient le futur ou l'idéal à atteindre. L'homme en marche vers la justice, téléguidé par son point d'arrivée, l'inexorable victoire de la raison sur l'irrationnel, de la victoire des lumières sur l'obscurantisme, l'humanité est en marche, oui. Mais sur un certain plan, en marche arrière. le symbolique allant au rebours du technique, car le progrès technique n'est pas synonyme du progrès de l'humanité. Les partis communistes ou progressistes en 1950 étaient certains de mettre la religion au musée, et en 2000, c'est la religion qui les a mises au musée. Le nombre d'États laïcs dans le monde se réduit en peau de chagrin, et ceux qui l'ont été à leur fondation, Israël, Turquie, Indonésie, Égypte et d'autres, prennent le chemin inverse. Ben Gourion, Kemal Atatürk, Nasser ou Sokarno, ces grands modernisateurs devant l'éternel, ne reconnaîtraient plus leur pays aujourd'hui. Et c'est à Bombay, à la pointe de l'informatique, que le fondamentalisme hindou se porte le mieux, et ce sont des facultés des sciences et des techniques, et non des facultés des lettres, que partout sortent les cadres intégristes. La mondialisation se révèle heureuse, le doux commerce remplacerait les cartes d'identité par la carte bleue, et une gouvernance mondiale pourrait enfin englober et bientôt remplacer par une belle ligne droite tout ce qui a tordu dans les lignages et les ancrages. L'Union européenne effacera bientôt ses mauvais souvenirs. Et voilà patatras, depuis 20 ans, 30 000 kilomètres de nouvelles frontières érigées sur la planète et Schengen en capilotade. Voilà non plus 45 États à l'ONU, ce qu'il y avait au moment de sa fondation, mais 198. Les superstructures multilatérales, l'ONU, l'OTAN, l'UE, l'OMC, rendent les armes au tout à l'ego et au ghetto partout. Et l'Europe fédérale, de moins en moins fédératrice, retourne, comme on dit, à ses vieux démons, où on découvre une nouvelle fois que ceux qui annoncent un au-delà débouche souvent sur l'on-delà, l'en-deçà, dénoncé. Au-delà de l'État-nation, on nous promettait une gouvernance mondiale, et voilà les ethnies, les confessions et les tribus. Au-delà de la Marseillaise même, voilà un Salve Regina à Ajaccio. Et Sarajevo, la multiculturelle, à nouveau divisée en quartiers ethniquement purifiés. Voilà. Des croyances, des langues, des peuples qui relevaient jusqu'ici du folklore ou de l'ethnologie, les Yazidis, les Assyro-Chaldéens, les Syriaques, les Malabars, mais aussi le Catalan, l'Écossais ou l'Orthodoxe, reviennent à l'avant-scène. Et il nous faut réapprendre des mots qu'on croyait enterrés, enterrés par l'homme instruit avec portable, écran et Rolex au poignet, des mots tels que pogrom, bunker, enclave, califat, charnier, esclave, razzia. Il nous faut rouvrir nos atlas d'avant 1914 pour comprendre quelque chose à la planisphère de 2016, où les mémoires longues font éclater nos belles constructions politiques. Alors je reviens à Walter Benjamin, ce formidable analyseur d'actualité. Il disait, il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Et il ajoutait que nous avions à tâche de saisir la constellation que notre propre époque forme avec telle époque antérieure. Rappelons-nous l'avertissement du préhistorien Leroy Gourhan, l'homme du futur est incompréhensible si l'on n'a pas compris l'homme du passé. Et Benjamin disait, sur Terre, nous avons été attendus. Alors on peut le prendre au mot et à nos risques et périls, même si la pensée par analogie reste fort mal vue, on peut le prendre au mot et chercher, oui, une parenté, une analogie, une correspondance avec quelque chose qui nous attendait. Et je crois qu'il existe, même si ça va vous choquer, un air de famille entre la sortie du XXe siècle et la sortie du siècle des Lumières. Disons la même gueule de bois, après un abus d'alcool utopique. Ça n'a pas dû être facile, au fond, de s'endormir dans une bergerie ou un salon philosophique en 1780 et de se réveiller en 93 au pied d'un échafaud ou en entonnant le chant de guerre de l'armée du Rhin dans un grand soulèvement de passion nationale. Ce n'est pas non plus facile de se coucher un soir avec l'International en musique de fond et de se réveiller au son d'une vétuste liturgie d'un appel de muezzin ou d'un chauffard, ou même d'un biniou ou d'une cornemuse. Les retombées d'espoir, c'est comme une déprogrammation. Vous êtes au cinéma, vous avez payé votre billet, vous avez eu la bande-annonce, et on vient vous annoncer que la projection du film n'aura pas lieu. On serait dépité à moins. Oui, je crois que deux périodes de l'esprit humain, éminemment optimiste et doctrinaire, ont vu leur lumineuse carrière s'achever en queue de poisson, plutôt sombrement. Oui, réfléchissons. Qu'avait de commun un XVIIIe siècle, plus raisonneur qu'activiste, épris avec ses mots en IT d'euphorie logicienne et de plans sur la comète, où la tête fonctionnait à merveille sans que le corps s'en mêle, où on parlait d'opinion mais non de conviction. Un siècle étranger aux orages comme à la mélancolie, avec plus d'esprit que d'âme. Et un XXe siècle idéologique et militant, avec ses mots en isme et sa classe délirante, nous, les intellectuels, cherchons leur salut dans la formation de blocs et de vastes systèmes intégrateurs. Qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est l'inaptitude au fondu enchaîné. C'est la volonté, comme disait Mirabeau, de recommencer l'histoire humaine à partir de principes applicables à tous les peuples et destinés à renouveler la face entière des affaires humaines. C'est Tocqueville qui parle. L'histoire n'est pas notre code, lançait un homme de 89, Rabaut Saint-Étienne. Et le XXe siècle aussi a rêvé de remettre le compteur à zéro, tantôt par l'exploit politique, tantôt par l'innovation technique, avec à l'horizon une table rase. Et la furieuse énergie des incorporations partidaires ou ethniques n'était pas plus au programme des encyclopédistes joyeusement cosmopolites que celle des religiosités transnationales à l'ère des marxistes ou des libéraux. Et voilà que l'homme nouveau, celui de Saint-Paul comme celui de Mao, a fait faux bond, et que le vieil homme exhibe, pour ainsi dire, un cuir de crocodile. Ni l'OMC, ni l'international n'ont empêché le retour du couteau et de la ceinture d'explosifs, de l'anathème et du blasphème, et réapparaît le barbelé barbare, avec des combats qu'on avait cru gagner depuis le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, cet âge, disait Julien Gracq, qui a tout éclairé et rien deviné. N'assiste-t-on pas, aujourd'hui même, à une reféodalisation des États-nations, avec fief et baronnie? Ne voit-on pas en France la région, qui est un legs d'ancien régime, effacer le département, qui est un legs de la Révolution? Le zombie a repris du poil de la bête. L'Europe moderne vivait la politique comme religion, résultat, deux guerres mondiales. Alors, dans la foulée des Trente Glorieuses, elle a adopté l'économie comme religion, pour dépasser, croyait-elle, les étroitesses mortifères du local et des patelins. Et voilà que surgit dans nos quartiers ou à nos portes, Libye, Tunisie, Syrie et France, un archipel de gens, jeunes et moins jeunes, qui refont de la religion une politique. Comment remettre nos montres à l'heure, sinon en se rappelant que l'économie ne fait pas une politique, et encore moins une communion humaine, et que la politique est toujours une affaire de culture? Ce qui est un truisme, direz-vous, mais difficile à avaler quand on sort d'un business school, d'une business school façon ENA ou HEC. D'où un certain désarroi chez les frileux adeptes d'un petit, non d'un grand rationalisme, peut préparer à saisir qu'un excès de Coca-Cola à l'entrée, c'est un excès d'ayatollah à la sortie. Peut préparer à se faire à l'idée que l'élévation quantitative des facteurs de progrès induit une élévation qualitative des facteurs de régression, que la mondialisation technoscientifique des objets, à laquelle nous assistons, suscite la tribalisation politico-culturelle des sujets humains, lesquels d'ailleurs manient avec bonheur ces mêmes objets techniques, nos hackers mondialisés n'étant pas les derniers à vouloir vivre et travailler au pays en Maurassien transfrontière. Les tribus numériques, c'est pour demain. Alors ce retour à Mons, qui incite les voisins de quartier du village global à s'entr'égorger, ces retours à Mons créent un décalage dans les temporalités vécues, d'où naît entre le premier et le deuxième monde, entre le nord et le sud, si vous voulez, je dirais une discordance des temps. Au moment où la Turquie se rappelle qu'elle fut l'Empire ottoman, où l'Iran se rappelle qu'elle fut la Perse, où l'ex-URSS se rappelle la Russie, et où la Chine se rappelle la Chine, tout simplement. Le petit cap de l'Asie, l'Europe se déleste de son passé, sans étudier d'ailleurs celui des autres, ignorance ou mépris qui valent main déboire et fiasco aux interventionnistes communicants qui lancent leurs drones et bombardiers sur des contrées dont ils ne savent strictement rien, Libye, Irak, Afghanistan, Syrie, etc. Le hiatus des mentalités, si vous voulez, entre les deux parties du monde, ajoutons aussi notre manque de modestie, nous qui érigeons les valeurs du terroir en étalons maîtres de l'universel, n'est pas sans affecter ce qu'on appelle absurdement la guerre contre le terrorisme. Ça a été tout à l'heure, Paris mettant ses pas dans ceux de Washington au temps de M. Bush. En vidéosphère, le voir prend le pas sur le savoir et nuit autant au revoir qu'au prévoir. Disons, trop de télévision, ça ampute la vision. Les sociétés rétiniennes, dévorées par l'actu, émotives et qui ne tiennent pas en place, esclaves de l'instant, perdent la perspective. Je parle de la perspective de l'histoire, non de la photographie. Les sociétés du croire, et c'est bien le drame, sont beaucoup plus patientes, plus endurantes, moins douillettes aussi, parce qu'elles misent sur le temps long, et que croire, c'est toujours espérer, c'est faire crédit, c'est attendre une rémunération d'un sacrifice ou d'une offrande d'aujourd'hui. L'islamisme se donne le temps. Nous, on veut du cash, de l'immédiat, du retour sur investissement avant les prochaines élections. La question est de savoir donc si notre écrasante supériorité scientifique, technologique et militaire est capable de compenser notre fébrilité, notre versatilité, notre soumission panique à l'urgence. J'incline à le penser parce que la force reste toujours à la force, encore plus si elle est dans la loi. Mais ce n'est pas joué, je n'en suis pas sûr. Je suis sûr seulement que la guerre contre le terrorisme sera perdue, bien entendu, parce qu'elle n'a pas de fin pour les mêmes raisons. Elle n'a pas de fin parce qu'elle ne peut pas être, le terrorisme ne peut pas être vaincu par les moyens de la guerre, comme le terrorisme anarchiste des années 90 et 1900 n'a pas été vaincu par les moyens de la police, mais sans doute par le mouvement ouvrier organisé par la révolution bolchevique de 1917. Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Bon, Malraux n'a sans doute pas dit ce qui est devenu un lieu commun, mais ce que chacun peut constater, c'est que même si nous avons nos grands messes onusiennes, écologiques et photographiques, comme le COP21, réconfortant mais fragile, ce qui est certain, c'est que l'avenir ne sera ni œcuménique ni pacifique. Pour maintes raisons, parmi lesquelles bien sûr la perte chez nous de l'agglutinant symbolique, mais aussi je crois par les migrations de masse auxquelles nous assistons. Pourquoi ? Parce que la bande diasporique met du frottement là où il n'y en avait pas, ou peu. Là où jusqu'ici une sage surdité psychique permettait à chaque culture de coexister plus ou moins bien avec des voisines qu'elle ne fréquentait pas, ou rarement. Mais quand l'espace s'unifie en devenant à la fois entremêlé et réactif, le monde entier devient une zone tampon, et la ligne de contact, une ligne de front. On dit les franges extrémistes, et de fait, les bordures sont toujours plus inflammables que les centres. La défense immunitaire du périmètre, allergique quasi physiologique au contact et plus encore à la greffe, prend alors la forme du fanatisme. Et tout le drame est là. Une société qui sort de plein fouet au transfert de population et à l'urbanisation accélérée, et cela vaut autant pour la gauche que pour Cologne, autant pour Johannesburg que pour Stockholm. Ces sociétés peuvent se fermer les yeux, mais elles ne peuvent pas soustraire leur épiderme au contact. Et si le fondamentalisme affecte nos sociétés comme une maladie de peau, le dialogue des civilisations devrait être confié aux dermatologues. Car force est de constater que la circulation accélérée des citoyens du monde, si heureuse qu'elle soit à mains égards, entraîne avec elle l'inflammation identitaire, comme la greffe, le rejet. D'où ces cris barbares, ces coups de pistolet dans le concert qu'on entend ici et là, séparation, dehors les intrus, plus de frontières, des murs. Le premier occupant, ou qui se croit-elle, s'estimant en droit de chasser le nouveau venu ou celui qu'il fait passer pour nouveau venu. Passons sur les exemples historiques et géographiques. Oui, il se trouve qu'avec les portables, Internet et Skype, Rome n'est plus seulement dans Rome, ni la Mecque à la Mecque, ni le Haïtien en Haïti, mais qu'il peut pratiquement se sentir un peu chez soi, hors de chez soi. Et une communauté de foi qui se délocalise, se sanctuarise à sa manière en sortant le drapeau, la barbe, le turban, la croix ou le voile. Et plus le contenu doctrinal s'estompe, plus s'exhibent ses signes distinctifs. Et le néo-fondamentalisme sectaire, comme chacun sait, est d'autant plus culturaliste qu'il est inculte. Le fait est que la déperdition identitaire se rattrape en mettant les bouchées doubles, en se gavant d'origines fantasmatiques et de généalogies retravaillées. Le fait est que la classe des États-nations, celui du XXe siècle, qui juxtaposait des territoires souverains aux frontières bien délimitées, cède la place à un atlas culturel qui juxtapose des mouvements d'ordre confessionnel, linguistique, ethnique ou tribale, antérieure à la constitution des États. Je veux dire que l'atlas géopolitique est moderne, l'atlas postmoderne est prémoderne. L'Inca fait retour dans la région andine et Sykes-Picot, comme on appelle les frontières de jadis au Proche-Orient, Sykes-Picot agonise. Et en Europe, la ligne de partage Riga-Split, tracé par le schisme du Filioque, dont je vous rappelle qu'il remonte au XIe siècle, a tout récemment fendu l'Ukraine en deux. Polono-lituanienne d'un côté, russe orthodoxe de l'autre. Et on voit que la nouvelle carte des allégeances ne respecte pas plus les traités diplomatiques que les principes souverainistes de la Charte des Nations Unies. Désarroi, consternation des diplomates qui voient le temps long des mémoires se surimposer au temps court des arrangements d'hier ou d'avant-hier. Autrement dit, les grands fédérateurs idéologiques du XXe siècle, l'État, la nation, la citoyenneté, les partis, les fédérations, s'effacent, s'effritent et remontent à la surface d'obscures solidarités venues du fond des âges qu'auraient dû balayer en bonne logique nos cours internationales de justice et nos interdépendances économiques. Alors, quand l'instance politique fait faillite, chacun sait que l'instance religieuse redevient l'organisateur collectif des laissés pour compte, leur ultime assurance vie, assurant à la fois sécurité, protection, entraide sociale, estime de soi et dignité. L'Istidla, le néo-destour, le nasserisme, le basse irakien, le pancasila indonésien ont eu à souffrir de cet étrange jeu de bascule, de cette étrange vicariance entre le politique et le religieux, auquel les Occidentaux, dans leur proverbial colonial et impérial aveuglement, n'ont pas peu contribué, de Suez à Kaboul, de Bagdad à Tripoli. L'Europe de l'Ouest est le seul continent où l'expression d'indépendance nationale est proscrite comme ringarde ou suspecte. Partout ailleurs, dans les quatre autres continents, elle reste et redevient l'axe directeur. Sauf que l'aspiration indépendantiste a changé de monture et de génération. Beaucoup de petits-enfants vont à la mosquée, à la synagogue ou au temple, quand les grands-parents s'en fichaient royalement. Le XXe siècle, disait Thibaudet, le grand critique littéraire, le XXe siècle est sinistre au vire, il va vers la gauche. La surenchère dans les idées se faisait toujours par la gauche. Eh bien, la nôtre serait plutôt destrovir. Preuve en est que la gauche de droite s'appelle la gauche moderne. C'était méconnaître le propre de l'animal symbolique, qui en toute chose voit double, que de s'imaginer qu'une fois envolés les mythes majuscules de l'Occident sécularisé, nation, révolution, progrès, classe, enrichissement, plein emploi, prospérité, etc., nos sociétés allaient enfin quitter les billevesées politiques pour toucher au sol ferme du calcul économique, sans valeur ajoutée. Eh ben non. Plus l'activité politique s'est délestée de ses vieux accents messianiques, et même de tout grand dessein, plus la promesse religieuse a retrouvé ses vieux appétits politiques. Est-ce que l'humanité en vieillissant retombe en enfance, comme le font les individus, en tout cas moi, ou vous peut-être ? On dirait que les névroses infantiles, qui étaient pour Freud les religions, loin de s'atténuer avec l'âge mûr, s'incrustent et se renouvellent au bas de la pente. Alors il y a maintes façons, si vous voulez, d'interpréter la délinéarisation de ce temps ferroviaire rêvé par nos positivistes, c'est-à-dire l'émergence dans le temps historique d'une machine à remonter le temps. Alors vous savez que Nietzsche en tenait pour l'éternel retour, Marx pour les tragédies qui se répètent inévitablement en comédie. Le napolitain Vico, lui, évoquait le curso et recurso pour s'expliquer la récurrence des choses humaines. Notre contemporain Lyotard, avec la notion de postmoderne reprise à l'architecture, a étendu bien au-delà du décoratif l'art du bricolage, du détournement ludique, de la citation éclectique, d'éléments empruntés à des styles ou des époques antérieures, bref, le postmoderne. Le postmoderne dans lequel le post signifie flashback et feedback, et même anamnèse, comme dans la cure psychanalytique. Je crois qu'on peut prendre la chose un peu plus au sérieux, et que le récessif dans le processus évolutif est un phénomène qui ne se réduit pas aux faux frais de la modernisation, ni à un simple décalage entre le rythme d'évolution ultra-rapide des systèmes techniques et le rythme d'évolution infiniment plus poussif des subjectivités collectives qu'on appelle les cultures. Je crois que ce n'est pas un retard à l'allumage, ce que nous appelons en médiologie un effet diligence. Vous savez, le nouveau commence toujours par imiter l'ancien. Les premiers wagons de chemin de fer avaient un profil de diligence, les premiers incunables, forme de manuscrits, les premières photos étaient des tableaux, les premiers films du théâtre. Bon, on connaît tout ça. Je crois que c'est beaucoup plus. C'est ce que nous nommons, nous, chez nous les médiologues, l'effet jogging. La déchéance des membres inférieurs était pronostiquée au début du XXe siècle par certains futurologues qui voyaient les citadins enfermés dans leurs petites boîtes métalliques ambulantes, les voitures. Et bien, depuis que les citadins marchent moins, ils courent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'au lieu de l'atrophie annoncée, il y a remusculation. Traduction, la dépersonnalisation techno-économique suscite une repersonnalisation politico-culturelle en sens contraire. Comme s'il y avait une sorte de thermostat de l'appartenance, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un néo-quelque chose, soit un archéo revu et corrigé et le plus souvent aggravé. Je crois qu'il y a une autre lecture du phénomène, qui pourrait s'inspirer non pas du sport ou du divan, mais de la neurophysiologie. Et c'est ce que, pour finir, je vais vous soumettre. Les neuropsychiatres savent que la dissolution des fonctions nerveuses chez un individu en crise ou sénescent s'opère en remontant le cours de l'évolution Les fonctions s'inscrivent et se hiérarchisent par ordre d'apparition, mais les plus récentes sont les plus fragiles. Autrement dit, le cortex préfrontal est beaucoup plus vulnérable que le rhinocéphale, et c'est le premier, le cortex qui se déstructure en cas de malheur. Autrement dit, la maladie ne crée pas, elle libère des instances affectives et instinctuelles plus ou moins refoulées par des connexions neuronales plus tardives. C'est comme dans la mémoire, si vous voulez. Les premiers souvenirs à disparaître sont ceux qui ont été le plus récemment fixés. On perd d'abord la mémoire, faites-moi confiance, on perd d'abord la mémoire de ce qu'on a fait hier, mais on garde une sensation d'enfance. Eh bien, les individualités collectives également sont le fruit d'une superposition sédimentaire de strates. Au fond, la famille, le clan, la tribu, comme marqueur généalogique, puis l'inscription religieuse, rituelle ou coutumière, et enfin par-dessus, l'inscription civique ou politique, dans un état-nation, un empire ou un parti. Et c'est ce qui est arrivé en dernier lieu à un peuple qui est le premier à s'en aller. Si vous voulez, le démantèlement de la maison commune commence par le toit. Alors oui, il faut avoir une vision dynamique du temps. Mais cette dynamique, pardon, Darwin, peut être une involution qui fait remonter en cas d'accident grave, climatique, épidémique ou économique, du plus complexe vers le plus simple. Je veux dire du citoyen vertueux vers le mammifère à sang chaud. De l'homo politicus à l'homo zoologique. De la morale kantienne aux contraintes animales du territoire, de l'acquisition alimentaire et de la sexualité. Le critère ethno-confessionnel est bien plus ancien que le critère national étatique, et les redécoupages territoriaux en cours vont inexorablement se recaler sur lui. Autrement dit, superficiel, c'est friable. Superficiel et friable est la couche moderne. Profonde et résistante est le tréfonds archaïque. Les démagogues de gauche et de droite qui rêvent de pousser les feux de la modernité auraient intérêt à faire un peu d'étymologie. Arché, en grec, c'est à la fois l'archive et l'archonte. C'est à la fois ce qui commence et ce qui commande. Cette coïncidence n'a rien de réconfortant, mais doit inciter plus que jamais à mettre la bête dormante sous observation, en gardant à l'esprit qu'une civilisation est une reconquête de chaque jour sur le barbare qui en chaque civilisé ou qui se croit tel ne dort que d'un œil. Quand Walter Benjamin s'est suicidé, il avait sur sa table de nuit une petite aquarelle d'un autre inclassable, comme lui, mort en 1940, Paul Klee, l'Angelus Novus. C'était son icône. Et il a avalé ses cachets de morphine, les yeux fixés sur cette icône. Je vais le laisser nous la décrire, cette icône, qui pourrait être celle d'une gauche tragique d'ailleurs. Je cite, « Angelus Novus représente un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit lui qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré, mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. » Fin de citation. Ainsi, l'ange de l'histoire regarde en arrière pour marcher vers l'avant. Et il se pourrait bien que notre rétrophobie nous condamne au surplace, appelé présentisme. Car oui, nous voilà à nouveau dans la tempête, et un monceau de ruines se profile sous nos yeux effarés. Cette menace de décivilisation nous met au défi de tenir bon précisément dans la tempête, de tête ferme sur nos deux pieds, lucidité et laïcité. En tout cas, notre bonne vieille modernité, ayant glissé du côté des antiquités, l'ordre du jour a changé en effet. Il ne consiste plus, comme chacun sait, à changer le monde du tout au tout, mais à l'empêcher de partir en morceaux. Il faudra bien aborder un jour, soyons un peu hegeliens, le troisième moment, je veux dire après le moment de la composition française, cher à Mona Ozouf, et celui de la décomposition, cher à Alain Finkielkraut et à Philippe Muret, il faudra bien aborder la recomposition. Je crois que c'est ce genre d'urgence qui mérite bien une mobilisation générale, comme tout ce qui relève de l'instinct de conservation. En tout cas, Benjamin fait partie de ceux ou de celles dont l'écho, disait Éluard, ne doit pas faiblir, car s'il faiblit, nous périrons. Car pour les dire dans les mots de notre prophète manqué, qui fut bien la vox clamans in deserto, la voix clamant dans le désert, de tout ce qui jamais advint, rien ne doit être considéré comme perdu pour l'histoire. Alors faire aujourd'hui entendre cette corne de brume, cette SOS, je crois que ça peut nous servir de réveil matin et nous rendre enfin, chose toujours difficile, contemporain du temps présent. Je vous remercie.
Debray, un grand merci à vous et je rejoins Martin Legros. Merci de ne pas avoir respecté la consigne.
Non, je respectais la consigne des 40 minutes, au moins celle-là.
Exactement, au moins on peut vous faire confiance sur maintenant. Le temps. Merci beaucoup, Régis Debray, d'avoir nous avoir consacré cette heure.